Bonjour et bienvenue dans l'épisode 12 du podcast Auto-édition e-book pour publier son livre sur Kindle, iBooks et Kobo. Cette semaine, je reçois Florence Clairefeuille dans le podcast et nous parlons à la fois de son activité de correctrice et de celle d'auteur. Comme l'enregistrement est un peu long, j'ai à nouveau découpé en deux parties, la première plus autour du travail de correction, la seconde autour de ses propres livres et du marketing qu'elle fait. Vous pouvez les écouter l'une après l'autre, les deux parties sont aussi intéressantes l'une que l'autre. Sous iTunes, j'ai chapitré. Vous retrouverez toutes les notes de cet épisode sur www.edition-ebooks.com/12. Bienvenue dans cet épisode 12 du podcast Auto-édition e-books. Aujourd'hui, je reçois Florence Clairefeuille. Bonjour.
Bonjour.
Enchantée de parler avec toi, Florence. Alors, tu es à la fois auteur et correctrice, puisque souvent les auteurs ne sont pas que auteurs. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et briser la glace avec les gens qui nous écoutent ?
D'accord, mais écoutez, briser la glace, j'espère qu'elle n'aura pas trop besoin. Maintenant, pour ce qui est de me présenter, alors en tant qu'auteur, bon, je vais dire que l'écriture a toujours été un peu mon mode d'expression naturel, même si professionnellement, je me suis d'abord orientée vers un métier plutôt scientifique, puisque j'étais analyste programmeur à l'origine, donc ce qui n'était pas tout à fait dans l'écriture. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée, et puis j'ai commencé vraiment à mener à terme des projets d'écriture il y a 10-15 ans à peu près, puisque mes premiers écrits auto-publiés remontent à 2002. Donc à l'époque c'était en papier forcément. Donc voilà pour le côté auteur. Ensuite, Donc j'ai changé une première fois de vie professionnelle pour partir comme administrateur avec des ONG, donc en mission humanitaire un peu partout à l'étranger. En parallèle, j'ai eu des enfants. Donc les enfants, au départ, ils ont suivi dans les missions. Et puis il arrive un moment où ça devient compliqué, déjà parce qu'ils n'ont plus envie. Et puis parce que pour leur scolarité, c'est beaucoup plus compliqué aussi. Donc retour en France plus ou moins définitif, en tout cas pour l'instant. Et donc c'est là, à ce moment-là, que j'ai commencé ma nouvelle vie professionnelle d'écrivain public, biographe, correctrice. Voilà. Donc ça date de 2009.
Écrivain public, biographe, correctrice, tu faisais pas encore de l'auto-édition papier ou électronique ?
Alors, j'avais déjà fait un peu d'auto-édition papier, puisque j'ai commencé en 2002. Après, auto-édition électronique, à ce moment-là, non, pas encore. Donc, quand j'ai commencé cette activité d'écrivain public, donc c'est un petit peu fourre-tout, moi, je me suis spécialisée assez rapidement dans 2-3 directions, donc l'écriture de biographie, la transcription d'entretien au départ, et puis la correction. Donc, quand je me suis lancée dans la correction, j'avais un blog pour mon activité d'écrivain public, donc j'ai un peu regardé sur le net, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de blogueurs qui sortaient des livres électroniques, justement. J'en ai téléchargé, j'en ai acheté, j'ai rapidement vu qu'il y avait beaucoup de besoins de correction dans ce domaine-là. Donc j'ai commencé à démarcher des blogueurs susceptibles d'être intéressés par mes services de correctrice.
D'accord. Alors, on va se concentrer un petit peu sur ton travail de correctrice, même si on reviendra un petit peu sur les livres que tu écris. Aujourd'hui, tu fais quel type de correction ? Tu fais de la lecture bêta, de la correction orthotypographique, Est-ce que tu adaptes un petit peu l'étendue de tes prestations et de ton travail ?
Alors, je fais effectivement plusieurs choses. Ce qui m'occupe le plus, c'est vraiment la correction orthotypographique. Donc, dans ces cas-là, j'interviens après les bêta-lecteurs, après les premiers relecteurs. Donc, une fois que l'histoire elle est vraiment figée et construite, on se dit le contenu... ne va pas changer, et c'est vraiment sur, on va dire, le toilettage et la mise en forme que j'interviens.
C'est là que tu interviens le plus. Mais est-ce que tu interviens aussi en lecture bêta ou...
Ça m'arrive. Je le fais moins pour deux raisons. D'abord parce que j'aime moins ça. Et puis je sais que je suis moins bonne dans ce domaine-là, quoi. Moi, je suis plus... je suis un peu pointilleuse. Donc c'est vrai que pour ce qui est correction, ça va très bien. Après, pour la bêta lecture, ça demande une autre vision des choses, une vision plus globale. Donc, c'est pas le même travail. Donc je m'oriente plus, moi, vraiment sur la toute dernière correction avant publication.
D'accord. Est-ce qu'il y a comme ça une adéquation entre le sujet aussi et ce que tu fais, toi, comme travail ? Parce que j'imagine que quand tu parles de correction, tu parles beaucoup de correction aussi de livres de fiction.
Oui.
Donc, est-ce qu'il y a des genres, toi, qui te plaisent plus que d'autres ?
Forcément, en termes de lecture personnelle, il y a des sujets, il y a des styles qui m'intéressent plus. Après, pour la correction, ça n'a pas tellement d'importance. Et puis, honnêtement, quelque part, je trouve ça sympa aussi, justement, de lire autre chose que ce que je lirais pour mon plaisir personnel. Parce que ça m'oblige quelque part à aller fureter dans des zones qui ne me sont pas familières. Et du coup, parfois, ça m'incite après, effectivement, à aller voir dans ces domaines-là. Donc, je ne me limite pas, je peux faire de tout, de la science-fiction, de la poésie. Bon, c'est plus compliqué, mais parce qu'il y a vraiment chaque personne a vraiment son caractère et ses façons de faire. Mais je peux faire du guide pratique, de l'autobiographie, enfin vraiment du policier, de la romance. C'est pas ce que je préfère, mais j'en fais aussi. Donc ça peut être un peu tout, effectivement. De ce côté-là, il n'y a pas trop de soucis.
D'accord.
Bon, il faut que ça reste en français quand même.
Oui. Tu te retrouves dans une situation aujourd'hui où t'as beaucoup de travail. Est-ce que tu es forcé de, entre guillemets, choisir tes clients, faire une petite sélection ?
Non, je ne suis pas forcée, mais éventuellement, ça peut m'arriver. Notamment si j'ai quelqu'un qui est vraiment un client fidèle, qui a un besoin urgent. C'est clair que même si j'ai quelqu'un d'autre qui me contacte à ce moment-là, je vais privilégier mon client habituel, on va dire. Voilà, donc c'est dans ce sens-là où je peux, je vais pas, ou si vraiment quelque chose, enfin ça ne m'est jamais arrivé, mais si vraiment un texte ne me tente absolument pas, je vais le refuser. Mais par contre, oui, je vais organiser mon planning, on va dire.
Est-ce que tu as déjà bien préparé organisé ton activité en ayant par exemple un contrat? Parce que je sais qu'il y a, je vois assez souvent des auteurs qui parlent de la crainte de voir leurs manuscrits volés, des choses comme ça.
D'accord.
Ça, c'est vraiment, quand on travaille avec quelqu'un qui est professionnel, évidemment, ça ne peut pas arriver.
Non, oui, c'est effectivement... Alors, le contrat, oui, j'en ai un. Après, j'avoue que je ne le transmets pas, enfin, il n'est pas signé systématiquement, parce qu'en fait, souvent, les relations se font de manière assez facile, en confiance. Enfin, jusqu'à présent, j'ai jamais eu, justement, d'auteur qui m'exprime cette crainte-là. Alors, je pense D'accord. que ceux qui l'ont, ils évitent carrément les correcteurs, enfin, je sais pas, ou alors ils s'adressent à des gens qu'ils connaissent vraiment de façon personnelle. Mais oui, c'est clair que le contrat, il existe. Bon, il n'est pas toujours formalisé, parce que voilà, il n'y en a pas forcément besoin. Bon, après, moi, il n'y en a pas forcément besoin. Je veux dire, j'ai ma propre déontologie. Moi, je sais que je ne vais divulguer à personne les textes sur lesquels je travaille.
Oui, quand je parle de contrat, il y a bien évidemment le contrat écrit, signé, mais il y a aussi le contrat qu'on forme avec quelqu'un en discutant avec lui de tout un ensemble de choses, à la fois les questions de propriété, évidemment, mais aussi À quel moment on doit être payé par rapport à quel travail, jusqu'à quelle est l'étendue du travail que toi tu fais, etc., etc. C'est aussi un contrat, même si on ne l'écrit pas.
Oui, alors moi, bon, après, de manière générale, moi, je ne, par principe, je fais confiance aux gens. Ou alors, s'il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui m'ait fait tiquer à un moment donné pour que j'ai quelques doutes. Mais sinon, par principe, je fais confiance, donc je fournis le travail. Donc déjà, je m'engage sur un délai, donc là, on se met d'accord avec l'auteur. Mais quand je m'engage sur une date de remise, je ferai ce qu'il faut pour la respecter, même si je dois travailler la nuit parce que j'ai un souci quelconque à un moment donné. Et j'envoie la facture à ce moment-là.
Voilà, d'accord. Donc... Est-ce que, j'imagine aussi que ça doit fonctionner dans les deux sens, c'est-à-dire que tu prends contact avec quelqu'un qui dit... Bah, je vais avoir quelque chose à faire corriger, il faut que l'auteur en question te fournisse son document en temps et en heure.
Ah bah oui, forcément, je ne peux pas... moi, c'est à partir du moment où j'ai le document, où je peux vraiment dire avec certitude à quel moment je vais le restituer. Parce qu'après, bon, les auteurs avec lesquels je travaille régulièrement, que je connais, on peut le faire même temps que je peux dire à l'avance, à peu près à quel moment je ferai la livraison, parce que je connais le style, je sais à peu près la quantité de travail que je vais avoir à faire dessus, parce que ça peut varier aussi énormément d'un auteur à l'autre. Bon, quelqu'un qui va mettre beaucoup de dialogues dans ses textes et qui ne va pas les présenter correctement, entre guillemets, d'un point de vue typographique, ça peut demander beaucoup de travail pour faire la mise en forme correcte. À contrario, quelqu'un qui n'a pas de dialogue mais qui fait beaucoup de fautes d'orthographe, bon, il y en a, hein, c'est voilà, ça arrive. Il va y avoir aussi beaucoup de travail, mais pas du même ordre. Il y a des gens avec lesquels je sais que bon, il va falloir regarder précisément, mais globalement, le texte à l'origine est déjà de très bonne qualité. Donc dans ce cas-là, les délais sont plus courts. Ça, c'est au fur et à mesure qu'on le voit. Mais donc avec un premier client, quelqu'un avec qui je n'ai jamais travaillé, tant que je n'ai pas vu le texte, au moins rapidement, pas lu en entier, mais au moins regarder un petit peu pour voir justement la qualité de l'écriture au départ, c'est difficile de faire une estimation. Bon, après, je fais quand même une cote mal taillée selon l'information qui est primordiale au départ, c'est le nombre de signes du texte et le nombre de signes espace comprise. Alors ça paraît toujours un peu étonnant, enfin souvent ça paraît étonnant au départ, mais en fait les espaces, ça demande autant de travail quand tu fais de la correction typographique que les autres caractères, parce qu'il y a les espaces insécables, il y a les espaces normaux.
Il y a énormément d'espaces, voilà, très
souvent,
différents.
Souvent il y a des espaces en trop, il faut vérifier qu'il n'y en ait pas trop, ou alors au contraire qu'il n'en manque pas. C'est presque plus, du point de vue de la correction, c'est presque plus fatigant que la correction du reste, parce que ça demande d'être super vigilant, quoi.
C'est souvent difficile, en regardant un texte, de voir si c'est un espace insécable ou si c'est un espace simple.
Bah oui, au premier coup d'œil, comme ça, tu le vois pas, sauf que...
On le voit pas. Or, c'est très important, voilà. surtout quand on passe en édition électronique et que l'espace insécable et l'espace simple ont énormément d'influence sur les retours chariots.
Voilà, ouais, quand tu as
les retours
points,
à la ligne,
voilà,
pardon.
Deux points ou un point d'exclamation tout seul en début de ligne, c'est quand même pas terrible,
c'est moche.
Quoi. C'est moche, et puis au-delà du fait que, enfin, il y a des gens qui ne
dérangent pas, ça nuit au sens.
Voilà, ça nuit au sens, et puis ça fatigue énormément à la lecture. Enfin, quand c'est un de temps en temps, c'est pas trop problématique, mais essaie de lire un texte où il n'y a pas d'espace après la virgule, par exemple, et ben au bout de deux pages, tu vas dire au secours, parce que tes yeux n'en peuvent plus, quoi. C'est là qu'on se rend compte que la typographie, on a l'impression que ça ne sert pas à grand-chose, et en fait, c'est quand on lit un texte qui est mal typographié qu'on se rend compte de tout ce que ça engendre comme fatigue derrière.
Et ça me fait penser qu'il faut que je vérifie encore à nouveau que mes textes sont bien ferrés à gauche et pas justifiés, parce que je trouve qu'un texte qui est systématiquement justifié, c'est plus fatigant à lire qu'un texte qui est bien ferré à gauche.
Alors ça se discute.
Ça se discute.
Moi j'aime bien les textes justifiés, mais c'est vrai que ça peut créer des situations où du coup tu as des espaces énormes entre les mots, par exemple, et ça c'est pas forcément très agréable non plus. Mais c'est vrai que c'est... Après, voilà, y a des règles, si tu veux, et puis il y a d'autres choses où c'est un peu... chacun peut avoir un peu sa patte aussi, quoi. Hein. Voilà, il y a des choses où on n'est pas non plus obligé de suivre des règles super strictes, et on a quand même un peu de liberté dans cette histoire.
Tu fais cette activité de correction vraiment depuis 2009-2010, si j'ai bien compris. Ouais. Est-ce que tu as vu une évolution du travail et des gens qui te contactaient pour faire ce genre de travail ?
Une évolution, non, pas vraiment. Alors, par contre, bon, j'ai toujours un peu le même schéma. Bon, y a des gens qui me contactent et puis avec qui ça tourne court très vite parce que bon, il faut pas non plus se leurrer, c'est que la correction, bah, ça prend du temps, donc forcément ça coûte un peu cher. Et puis il y a quand même des gens de toute façon qui se disent que bon, un correcteur, ça fait pas beaucoup plus que le correcteur du traitement de texte, donc quand même c'est cher payé pour pas grand chose. Bon, ça, c'est, il y en avait il y a 6 ans, il y en a toujours des gens comme ça, donc voilà. Ça, c'est, clairement, les gens avec lesquels je travaille, c'est des gens qui ont envie de produire quelque chose de qualité, quoi. C'est des gens qui aiment le travail bien fait, tout simplement, hein. Ça c'est assez constant de ce côté-là.
Comment est-ce que toi, tu arrives à gérer le stress entre ta position de correctrice et ton travail d'auteur ? Est-ce que justement, il n'y a pas une espèce de tension qui se crée entre les deux où tu te retrouves à écrire quelque chose et puis ensuite, tu as envie de... Enfin, le défaut, la maladie, enfin, comment dire ? Je ne saurais comment dire, mais de le reprendre et d'essayer de le corriger.
Ah ! Oui, effectivement. Non, au départ, je me disais non, il n'y a pas de stress. Je fais bien la distinction entre les deux, entre ce que j'écris et ce que je corrige. Mais effectivement, sur ce que j'écris, j'ai tendance à être super pénible avec mes propres textes, c'est-à-dire à être, je pense, encore plus qu'un auteur normal, entre guillemets. Je relis énormément et je retrouve toujours des choses à corriger, mais bon, j'ai appris justement petit à petit à lâcher prise quand même à un moment donné. Et alors finalement la meilleure chose que j'ai trouvée, c'est de me fixer des dates pour la sortie du livre. Voilà, comme ça je me dis de toute façon là maintenant t'as pas le choix, c'est la dernière relecture, bon, sachant qu'il y en a eu un certain nombre, hein, avant, mais voilà, à un moment donné je me dis de toute façon si tu en fais encore une tu pourras pas être prête dans les temps, donc voilà, il faut s'arrêter. Mais sinon oui, c'est vrai que c'est assez catastrophique, hein. Alors là, bon, il y a un truc dont je peux parler qui m'intéresse peut-être plus les auteurs que les correcteurs, enfin mon aspect auteur que correcteur, en fait, c'est que un truc qui m'a pas mal aidé pour justement arrêter de revenir sans arrêt en arrière, de reprendre mes textes 15 fois de suite pour pas grand-chose, c'est de participer au NaNoWriMo.
Oh, pardon ?
NaNoWriMo, National Novel Writing Month. Donc, truc qui a lieu au mois de novembre. Et donc, pour les gens qui ne connaissent pas, le principe, c'est d'écrire, l'idée de base, c'est d'écrire un roman de 50 000 mots sur le mois de novembre, donc en 30 jours. Ça fait un volume d'écriture assez conséquent. Pour moi, ça représente à 1h30 à 2h par jour, quoi.
Facilement, oui. Facilement.
Voilà. Et de fait, pour arriver à produire ça, j'étais bien obligée de ne pas trop regarder ce que j'avais déjà fait.
Oui. Ce que disent les auteurs américains qui participent au NaNoWriMo, c'est souvent qu'à la fin, ce qu'ils ont, c'est plus du gloubi-boulga qu'autre chose.
Eh ben, ça c'est très variable, hein. Moi, là-dessus, je suis pas d'accord. ça demande à être retravaillé. Ça, c'est.
Oui, ça est toujours.
C'est assez flagrant parce qu'effectivement, enfin donc, moi, je l'ai fait deux fois là, en 2013 et 2014.
Bravo. Hein.
Voilà.
Bravo,
parce que moi, Mais j'en avais entendu parler en 2012 et puis bon, ça m'avait un peu titillé, mais je me sentais pas encore prête à le faire. Enfin, ça me paraissait trop énorme comme défi. Et puis en 2013, je me suis dit bon, allez là, je me lance. Et le fait est que j'ai été obligée d'écrire, mais vraiment sans revenir en arrière, parce que bon, en plus, bon, j'avais ma vie normale à côté, quoi. Donc c'était 2 heures de boulot à Calais en plus. Donc c'était toujours tard le soir. Bon, ça me convient très bien. C'est un moment où je suis assez efficace, mais bon, quand même. Donc je ne pouvais pas du tout revenir en arrière. Donc le fait est que quand j'ai relu le premier jet après coup, il y avait quand même des incohérences assez flagrantes, quoi. Voilà, donc ça a demandé, c'est un texte qui a demandé plus de travail, de retravail après qu'un texte que j'aurais écrit auparavant. Mais en tout cas, ça m'a appris justement à ne pas sans arrêt recorriger.
Lâcher prise un peu pour vraiment se concentrer sur l'écriture uniquement. Pour les Français qui parlent en nombre de pages et non pas en nombre de mots, 50 000 mots, ça fait environ 140 pages, quelque chose comme ça.
Mais ça dépend de ta mise en page.
Oui, ça dépend forcément de la mise en page. Mais je crois qu'en France, on considère qu'il y a 350 mots par page environ. Entre 350 et 500, quoi.
Ouais. Ben écoute,
ça fait donc de 100 à 150 pages.
Oui, voire un peu plus. Moi, je compterais plutôt dans les 200-250, mais ouais. Ben, le fait est que, parce que du coup, je me suis mise effectivement à regarder moi un nombre de mots, un peu ce que ça donne dans mes bouquins, et puis c'est vrai que pour 50-55 000 mots, en général, j'ai pas loin de 300 pages. Bon, après, j'ai peut-être une mise en page. Là, je parle de livres de formatage papier.
Oui, hein, bien sûr, évidemment.
À 5, puisque en numérique, ça n'a plus trop de sens. Mais bon, après, j'ai souvent des chapitres qui sont relativement courts, une dizaine de pages, donc ça permet. Enfin, voilà, c'est assez aéré comme présentation, mais ça tourne plutôt dans les 250 pages, quand même.
Oui, tu parlais de délai.
Oui.
Ça, pour un roman d'environ 200 pages. Ça te prend combien de temps pour faire une correction ? Parce que c'est aussi un paramètre à prendre en compte quand on travaille sur les dernières phases avant l'édition, avant la publication.
Ouais.
Toi, ça te prend combien de temps ?
Niveau temps, alors,
c'est évidemment variable puisque ça dépend beaucoup de l'écriture et du travail que tu dois fournir, mais du simple au double, ça fait quoi ?
Même pas du simple au double, il y a entre 10 et 15 heures à peu près de travail.
Donc, à étaler comme ça sur plusieurs jours.
Ah oui, parce que tout à la suite, oui, c'est un peu compliqué.
Non, c'est pas possible.
Non, et puis, alors, donc, pour préciser un peu ma façon de travailler, donc, en général, l'auteur m'envoie son document au format traitement de texte. Donc, les plus courants, c'est Word et OpenOffice. À partir de là, moi, je fais un premier passage sur écran, donc où je corrige le texte, alors en activant le suivi des modifications, ce qui fait que on voit effectivement tout ce qui a été fait. Je mets aussi des commentaires, parce que quand je relève une tournure de phrase qui n'est pas foncièrement incorrecte, mais que je ne trouve pas très claire, par exemple, je mets un commentaire pour proposer autre chose, sachant qu'après, c'est l'auteur qui décide. Hein. Ou alors, par exemple, là récemment, j'ai corrigé un texte où on passe du mois de mars au mois de mai, et après on revient au mois d'avril.
Est-ce que c'est bien voulu ?
Mais ce n'est pas moi qui vais corriger. Peut-être qu'il faut juste inverser à avril et mai, mais je ne sais pas. Ou alors est-ce que le mois d'avril va être transformé en juin ou juillet ? Ça c'est un peu l'auteur qui, selon le schéma qu'il veut mettre en place, qui va modifier ça. Mais en tout cas, moi je le mentionne. Ou alors j'ai eu aussi le cas récemment, quelqu'un dont le nom de famille se transforme en cours de route. Ça c'est des choses qu'il faut mentionner. Donc en tout cas, je fais un premier passage comme ça sur le fichier numérique. Suite à ça, donc je fais une copie de ce fichier, donc dans lequel je valide toutes les corrections que j'ai proposées et je l'imprime. Je fais un deuxième passage sur papier, puisque l'usage, j'ai remarqué que sur papier, je ne vois pas forcément les mêmes choses qu'à l'écran. Et puis c'est pas le même pour les yeux aussi, c'est plus reposant de changer un peu de support. Donc je retrouve forcément des choses. à corriger, donc que je vais reporter sur le fichier numérique. Et je vais faire un troisième passage ensuite, donc de nouveau à l'écran, sur le fichier que j'ai imprimé en PDF, enfin mis en PDF. Voilà, ce qui est une façon de modifier le support. Voilà, donc en tout cas, je fais trois passages sur le texte systématiquement, et au troisième passage, bon, forcément, il y a très peu de choses à relever, mais il y en a toujours. Donc c'est important de le faire. Voilà, c'est ce qui explique aussi le temps que ça prend, quoi. Parce que c'est, bon, forcément, le texte, je le lis, mais je ne fais pas que le lire, quoi. Je travaille beaucoup dessus.
Est-ce que l'auteur doit tout accepter de tes modifications ou de tes commentaires? Tu disais non.
Ah ben non, pas du tout. Moi, je lui renvoie après donc le document avec le premier, le fichier, avec le suivi de toutes les modifications. Et je lui envoie aussi, donc ça permet de voir la quantité de travail qu'il y a eu dessus. Et puis je lui envoie le même fichier, donc avec toutes les corrections acceptées, donc les commentaires restent en commentaires, eux, parce que bon, là c'est vraiment lui qui a le choix. Et puis après, à partir de là, je veux dire, si l'auteur a envie de changer quelque chose, il a tout à fait le loisir de le modifier, hein. Moi, je lui transmets le résultat de mon travail, je ne vais pas après vérifier que c'est bien ce document-là qu'il va distribuer ou faire imprimer. Voilà, c'est... Moi, j'ai une prestation à fournir. À partir de là, l'auteur reste quand même le maître à bord. Hein,
Est-ce que tu leur conseilles aussi de relire? J'imagine que les gens avec lesquels tu travailles vont de toute façon relire ce que tu as fait correctement.
Oui.
Mais est-ce que parfois, quand c'est quelqu'un avec qui tu travailles pour la première fois, tu l'invites particulièrement à relire à nouveau ce que tu lui rends?
Non, j'avoue que je ne le fais pas systématiquement parce que enfin pour moi ça va tellement de soi, enfin et en même temps il peut y avoir deux positions, soit la personne a envie de se rendre compte du travail qui a été fait ou a des doutes éventuellement même sur ce que j'ai pu faire, donc ça peut arriver, hein, et dans ce cas va relire vraiment avec précision tout ce que j'ai fait, ou alors au contraire on peut avoir des gens qui me font confiance à 200% et se disent rien touché du tout. Donc, si je précise quand même toujours, bon, c'est rare qu'il n'y en ait pas, mais s'il n'y a aucun commentaire, je ne vais pas le dire, forcément, mais dès que j'ai mis un commentaire pour un questionnement, une incohérence quelconque, ça, je le précise par contre à l'auteur, lui dire que voilà, il va y avoir des choses que lui va devoir, sur lesquelles il va devoir statuer, quoi.
Pour. Apprécie un petit peu aussi le travail que tu as fait jusqu'à présent et tes qualités, entre guillemets, de correctrice. Est-ce que tu peux nous dire quelques ouvrages sur lesquels tu as travaillé historiquement ou récemment?
Alors, écoute, ceux qui vont être qui vont parler au plus de monde, ce sont les livres de Jean-Philippe Touzeau. Les plus connus, c'est toute la série La femme sans peur. Donc, j'ai travaillé sur les 5 qui sont parus. Je ne devrais pas tarder à avoir le 6e.
C'est un appel du
pied. Non, il m'a prévenu. C'est prévu pour le mois prochain.
D'accord. Oui.
Donc j'ai travaillé aussi sur les 2 premiers épisodes des 3 extases. Donc ça.
Donc il fait en même temps 2 séries.
Voilà.
Il continue,
ouais.
La femme sans peur et il lance les 3 extases.
Oui, c'est un auteur très prolifique.
Oui, non, mais c'est un auteur commercial qui a bien compris qu'il fallait être commercial pour vendre.
Ah non, et puis bon, je veux dire, il se débrouille aussi pour que ses produits soient des produits de qualité, parce que bon.
Ah, non, mais c'est pas la quantité qui.
Oui, c'est
pas clair. Parce qu'on fournit en quantité. Voilà.
Oui, donc Jean-Philippe, je le connais depuis un certain temps, puisque j'avais travaillé sur des textes antérieurs quand il les publiait sur son blog, plus des histoires un peu plus courtes. Donc on va dire, en tout cas, c'est mon client le plus fidèle et le plus régulier et l'un des plus anciens aussi. Voilà, donc je pense que dans le milieu, on va dire, de l'auto-édition, tout le monde le connaît plus ou moins maintenant.